Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, une semaine avant la Pentecôte, l'évangile d'aujourd'hui est déjà centré sur le Saint-Esprit que Jésus annonce sous le nom de Paraclet, mais dont la venue semble liée aux difficultés et aux dangers que Jésus annonce en même temps. On vous exclura des synagogues, et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre gloire à Dieu. Y a-t-il un lien entre les deux? Oui, parce que précisément, le nom sous lequel Jésus annonce le Saint-Esprit, ce nom de Paraclet, Paraclétos, désigne en grec celui qui assiste dans la difficulté. C'est un mot qu'il est difficile de traduire en français parce qu'il n'y a pas l'équivalent exact en français. C'est pour ça qu'on a créé le mot paraclet. Certains parfois traduisent par avocat parce qu'effectivement l'avocat est celui qui vient aider dans une difficulté, dans un procès. Parfois on traduit également par consolateur parce que le consolateur est aussi celui qui vient aider et réconforter dans une difficulté. Mais le sens du mot est plus large, c'est vraiment celui qui aide à surmonter un danger, un grand danger, que ce soit un conseiller, donc un avocat ou un consolateur. Nous avons besoin du Saint-Esprit parce que précisément nous sommes plongés dans toutes sortes de difficultés. Et si on peut voir la chose à différents points de vue, on pourrait étudier le Saint-Esprit en tant qu'avocat, c'est-à-dire celui qui va venir nous conseiller. On peut aussi, et c'est ce que nous ferons aujourd'hui, le considérer en tant que consolateur, parce que le Saint-Esprit mérite ce nom de consolateur qui lui a été donné ensuite dans la liturgie. Et il remplit cette mission à double titre. D'abord, parce que, effectivement, nous sommes plongés dans les épreuves, et que, comme l'a dit saint Paul, ceux qui veulent vivre avec piété en Jésus-Christ seront persécutés. Donc, d'une façon ou d'une autre, le chrétien se trouve face à la persécution. Dans bien des cas, ça va jusqu'au martyr. Mais même quand ça ne va pas jusque-là, regardez saint Athanase, qui n'a pas eu la grâce de mourir martyr. Il a quand même été exilé plusieurs fois de son siège épiscopal, parfois il est resté dans son diocèse caché, et notamment à une reprise, il est resté pendant 6 années caché dans une citerne sèche, sans voir le soleil. C'était autre chose que le confinement qui a été imposé pendant quelques mois. Et il n'avait la visite que d'un seul ami qui venait lui apporter la nourriture et satisfaire ses besoins les plus indispensables, c'était tout. Et cela a duré 6 ans. Le psaume dit « Les tribulations du juste sont innombrables, mais il n'y en a aucune dont le Seigneur ne le délivre. » Donc ça, c'est la première raison, parce que cette terre est une vallée de larmes, nous avons besoin d'un consolateur. Il y en a une deuxième, qui est que précisément, pour pouvoir nous diriger vers le ciel, nous avons besoin de nous détourner volontairement des jouissances et des plaisirs de cette terre. Donc ça ne sont pas forcément des calamités qui nous arrivent, mais ça doit être un choix de notre part de tourner le dos à ce qui est terrestre pour pouvoir nous diriger vers le ciel. Et c'est tout ce qu'on appelle le mouvement de conversion. Et nombreuses sont les oraisons qui nous demandent ainsi de nous détacher des biens de la terre pour nous faire mieux apprécier les biens du ciel. Et cela pose évidemment une difficulté parce que l'homme est un animal et Dieu a créé les animaux de telle sorte que, en tout domaine, ils sont poussés à agir par le plaisir qu'ils vont trouver dans telle ou telle action qui est nécessaire pour qu'il puisse se maintenir en vie. La douleur d'un côté et le plaisir de l'autre sont les grands moteurs qui vont aider les animaux à éviter ce qui leur nuit et se diriger vers ce qui est bon pour eux. Et on a beau faire, l'homme est un animal raisonnable, c'est entendu, mais l'homme reste un animal. Ce qui fait qu'il lui est très difficile de se détourner des plaisirs de la terre s'il n'a pas en même temps un certain plaisir céleste qui lui est donné, pas de façon continuelle, mais au moins de temps en temps, pour l'encourager et se diriger vers le bon Dieu. Et c'est précisément là qu'intervient le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est le consolateur, celui qui va venir de temps en temps nous donner un avant-goût du ciel, nous donner ses encouragements sur la bonne route, de façon à ce que nous ne nous découragions pas et que nous reprenions de l'énergie pour nous diriger de plus en plus résolument vers notre fin. Si nous n'étions pas consolés de temps en temps par ces délices spirituelles, nous ne parviendrions jamais à nous détacher radicalement des délices charnels. Alors vous savez bien, ça n'est pas tout le temps, parce que ça serait un peu trop facile. Les consolations du Saint-Esprit peuvent alterner avec des moments qu'on va appeler des moments de désolation. Il va aussi y avoir des épreuves. Néanmoins, le bon Dieu veut, et dans toute vie de saint, on constate qu'il y a des moments de tristesse, des moments de désert, mais il y a aussi, nous en avons besoin, de ces consolations, et c'est le Saint-Esprit qui vient nous les apporter. Alors on peut se demander maintenant, quelles sont ces consolations du Saint-Esprit et comment nous sont-elles données ? On peut comparer, et la comparaison vient de l'Écriture sainte elle-même, le Saint-Esprit à un fleuve. Si quelqu'un, même des fleuves d'eau vive couleront de son sein, dit notre Seigneur Jésus-Christ, et aussi l'Apocalypse aussi compare le Saint-Esprit à un grand fleuve. Et le fleuve qui vient nous abreuver, comme tout fleuve, de temps en temps coule normalement entre ses rives, et de temps en temps va être porté à se répandre au dehors lorsqu'il a été accru par les pluies de l'hiver, et il va donc déborder sur les champs alentours. C'était le cas particulièrement, enfin c'est encore d'ailleurs le cas en Égypte. Le Nil était considéré comme une bénédiction céleste, particulièrement à cause de ses crues. Les crues du Nil venaient apporter l'eau et aussi de nombreuses alluvions à toutes les terres qui étaient à côté. Ce sont ces crues qui permettaient d'entretenir ensuite les cultures autour du fleuve. Or, le Saint-Esprit fait, pour ainsi dire, la même chose dans notre âme. Parfois, il coule paisiblement et il nous abreuve, il nous fournit tout ce dont nous avons besoin, mais parfois, il y a comme des crues, des inondations qui viennent fortifier nos âmes et qui vont être particulièrement sensibles. Ces inondations, ces crues vont se faire particulièrement par les vertus théologales, les trois vertus théologales de foi, d'espérance et de charité. De temps en temps, nous recevons continuellement la lumière de la foi, mais c'est une lumière qui nous parvient à travers un nuage. Nous ne pouvons pas voir Dieu ici-bas. Nous recevons la lumière de la foi sans voir les réalités auxquelles nous croyons. Et pourtant, à certains moments, il semble que les nuées s'entrouvrent pour laisser passer de façon beaucoup plus intense la lumière. Et si nous ne voyons pas vraiment le visage de Dieu, dont on parlait dans l'introït, on parle de Dieu, Dominus Illuminatio Mea, mon Seigneur, vous êtes ma lumière, et puis on demande, Vultum Tuum, montrez-moi votre visage au Seigneur. Donc si ici-bas nous ne pouvons pas voir le visage de Dieu, nous en avons quand même comme un aperçu par ces petits rayons plus intenses du soleil qui correspondent à ce qu'on appelle le don d'intelligence, qui vient éclairer la foi elle-même et rend parfois plus claire que le jour certaines vérités mystérieuses en elles-mêmes. Cela ne dure pas forcément, malheureusement, mais de temps en temps, tout à coup, une parole de l'Évangile va nous paraître une véritable lumière qui éclaire toute notre vie. Et ça va forcément nous donner de la joie. C'est ce que dit saint Paul lorsqu'il dit « Deus repleat vos omni gaudio et pace in credendo ». Donc que Dieu vous remplisse de joie et de paix dans votre foi. Et ce sont ces accroissements de foi par le Saint-Esprit, cette lumière divine qui vont nous encourager et être pour nous une source de joie. On pourrait dire la même chose de l'espérance. Parfois, l'espérance déborde tellement qu'on semble presque avoir pris possession du ciel. On a une sorte d'ivresse, une douce ivresse, parce que c'est la nature des choses que plus l'espérance est vive, plus elle est voisine de la possession. Et là encore, c'est saint Paul qui nous le dit, que l'espérance vous tienne dans la joie, spe gaudentes. Et enfin, il y a parfois ces accroissements, ces embrasements de charité, des ardeurs qui nous viennent, qu'on peut comparer au feu excité par le vent qui projette ses flammes dans les airs. Et de même, la charité animée par l'Esprit Saint dilate ses flammes qui pénètrent le cœur d'une chaleur et d'une joie inexprimables. Ce sont donc essentiellement à travers ces trois vertus théologales, foi, espérance et charité, que le Saint-Esprit nous donne ses consolations et ses joies. Mais il y a aussi, et là encore c'est dit par notre Seigneur dans l'Évangile, il y a aussi les manifestations de la providence divine, et particulièrement lorsque le bon Dieu vient exaucer nos prières. Notre Seigneur dit « Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite ». Et s'il y a déjà une grande joie à espérer, espérer les biens du ciel, il y a aussi forcément un accroissement de joie à se rendre compte qu'on a été écouté par notre Père du ciel et qu'il est venu exaucer, nous accorder ce que nous lui avions demandé. Ma bouche a crié vers lui et j'ai été inondé de joie, dit le psalmiste. Le vénérable Louis de Grenade raconte à ce sujet : J'ai connu un homme pieux, très enclin à la colère et qui souvent s'emportait violemment en paroles. Un tel désordre l'affligeait extrêmement, et par des prières ferventes, il ne cessait de demander au Seigneur, mais en vain, à ce qu'il lui semblait, un remède à sa maladie. De plus en plus consterné, il multipliait ses prières, il les redoublait, et les cris de son âme suppliaient Dieu de lui accorder la victoire. Or, un jour, après une nuit de prières, il se trouva tellement changé que, dans la suite, provoqué même par des injures, il ne ressentait aucun mouvement d'irascibilité. Comprenant à un signe si manifeste que ses supplications avaient été exaucées et que le doigt de Dieu était là, considérant d'ailleurs d'une part son indignité et de l'autre cette majesté infinie, il s'abandonnait à tous les transports de la joie et de l'admiration. Il se demandait comment celui qui gouverne toutes choses avait daigné faire attention aux vœux et aux prières d'un vermisseau, le regarder d'un œil favorable, l'exaucer, combler ses vœux et guérir ses maladies. Telle est donc la joie mêlée d'admiration qu'apporte une prière exaucée. On peut y ajouter, dernière source de joie, le témoignage de la conscience, puisque l'Esprit Saint vient rendre témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est un témoignage qui n'est jamais absolument certain à 100%, car l'Écriture nous dit aussi que personne n'est en état de savoir avec certitude s'il est digne d'amour ou de haine, et pourtant, nous pouvons avoir une forte conjecture dans ces signes qui nous sont donnés à l'intérieur de nous-mêmes lorsque le Saint-Esprit vient nous rendre témoignage que nous sommes enfants de Dieu. Nous devons donc, en cette période préparatoire à la Pentecôte, essayer de nous disposer à recevoir ces dons du Saint-Esprit, en visant toujours non pas tellement les consolations de Dieu que le Dieu des consolations, car les consolations elles-mêmes ne sont qu'un moyen pour un encouragement pour nous orienter vers lui, elles ne sont pas un but en soi. Et bien sûr, nous devons nous mettre pour cela dans les dispositions qui étaient celles de la très sainte Vierge Marie et des apôtres durant la semaine qui a préparé la Pentecôte. Les actes des apôtres nous disent, attendant la venue de l'Esprit-Saint, ils persévéraient tous ensemble dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus. Vous remarquez la formule, on ne dit pas seulement qu'ils priaient, mais qu'ils persévéraient dans la prière. Et c'est là effectivement une des conditions pour recevoir les grâces du Saint-Esprit, et notamment ses consolations. Il faut une certaine persévérance qui était sans doute plus fréquente au premier temps de l'Église qu'elle ne l'est aujourd'hui. On est toujours frappé de voir combien la liturgie, notre liturgie, a été diminuée depuis les débuts de l'Église, puisque autrefois, si on parlait des vigiles des fêtes, on va avoir dans 6 jours la vigile de la Pentecôte, le mot vigile indique bien qu'il s'agissait de passer toute la nuit qui précédait la grande fête, toute la nuit à prier, à chanter des psaumes, à célébrer la fête qui allait venir pour se préparer à en recevoir les fruits. Donc nous ne pourrons pas, la liturgie ne prévoit pas que nous le fassions, mais néanmoins, profitons de ce temps avant la Pentecôte avec la Sainte Vierge pour nous bien préparer à recevoir le Saint-Esprit en persévérant dans la prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.